Bon, bonjour, bonjour à tous. Installez-vous sur les places qu'il ne reste pas. On est ici réunis pour évoquer ce thème, Quantified Yourself, qui est peut-être un peu cryptique en tant que tel. Donc, le thème qu'on va vraiment traiter, c'est l'usage des données personnelles qui deviennent de plus en plus disponibles. Par exemple, je vous montre ce petit appareil-là. Vous êtes nombreux à l'avoir dans votre poche. Cet appareil-là, il sait où vous êtes, il vous rappelle vos rendez-vous, il peut compter le nombre de pas que vous faites quand vous faites du jogging ou des choses comme ça, il peut monitorer votre sommeil. Il y a des applications, vous posez ça sur votre lit et puis le lendemain matin, il vous dit si vous avez bien dormi ou pas bien dormi. Pour les plus modernes, il connaît vos empreintes digitales, n'est-ce pas ? Il connaît votre visage, il est capable de reconnaître des photos de vous, bientôt il connaîtra votre empreinte oculaire. Donc il sait déjà plein de choses, il a déjà ce tout petit appareil qui n'existait pas il y a quelques années, il a déjà plein de données sur vous. Et on peut imaginer encore plein d'autres fonctions, et on va le faire avec nos invités de ce genre d'appareil, dans plein d'autres objets. Bon, il y a des montres aussi qui sont un peu plus proches du corps et qui peuvent commencer à mesurer des choses presque plus intimes que les téléphones portables. Et donc il mesure et il stocke toutes ces données quelque part. Alors pour parler de cette humanité quantifiée, trois intervenants, Pascal Métayer au centre, qui est psychologue clinicien, au CHU de Nantes, en psychiatrie adulte, dans le service du docteur Baucher. Alex Jester, à ma gauche immédiate, qui est écrivain, traducteur, scénariste, dialoguiste, en particulier auteur de la série Les Contes du Soleil Noir, qui sont sortis cette année au Diable Vauvert, et dont on parlera tout à l'heure parce que ça résonne particulièrement avec le thème. Et à l'autre bout de la table, Jean-Claude Degnac, qui est ingénieur aéronautique et écrivain, de plusieurs romans, d'au moins une centaine de nouvelles. Et tu t'intéresses en ce moment particulièrement au genre de questions qui sont posées par notre table ronde sur l'humain quantifié et puis tout ce qu'il y a autour de cet homme quantifié. Alors peut-être pour démarrer, je voudrais vous interroger sur ces mesures-là, donc ces instruments comme celui-là, mais il y en a d'autres là, qui nous mesurent. Qu'est-ce qu'on fait de ces mesures ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous aliène, qui serait plutôt négatif, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rendre utile ? C'est-à-dire, est-ce que ces données, on peut les utiliser pour faire quelque chose de sympa, d'utile, pour la santé ou pour n'importe quoi d'autre ? Et j'ai peut-être d'abord interrogé le psychologue sur cet aspect-là, Pascal.
Ça marche, là ? C'est bon ? Je ne peux pas, comme ça, dire si un objet est utile ou pas utile. Il est évident, je ne sais pas, moi, je pense à un diabétique, par exemple, ça peut être quand même vachement utile d'avoir une idée de sa glycémie au jour par heure par heure, même pour...
Je le confirme, j'ai fait l'enquête l'année dernière.
D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc, ça peut être éventuellement un objet utile, mais est-ce qu'il est utile de savoir sa glycémie heure par heure si on n'est pas diabétique ? Et c'est là où la question commence à se poser, c'est à quel moment, je dirais, l'outil va s'imposer à nous au-delà de l'utilité médicale qu'on peut en avoir. Connaître son poids, ça peut être intéressant. Se peser trois fois par jour, ça commence à poser problème. Le pèse personne, qu'est-ce qu'il pèse ? Enfin, c'est une question. Il pèse un poids du corps, mais il ne pèse pas le sujet. Et c'est comme si le sujet essayait de trouver à travers ce chiffre, pour moi c'est 73, pour d'autres ça va être autre chose, ce chiffre qui va le déterminer, qui va dire qui il est. Je suis 73 kilos, ça ne veut rien dire de moi. Et pour autant, je vais m'accrocher à ce chiffre et peut-être me déterminer à essayer de le faire descendre à 70 parce que ça serait une norme qui serait peut-être plus dans la mode des temps. Et là, l'objet devient aliénant. Parce qu'il est celui qui nous donne la norme. Une norme qui est basée sur quoi ? Non plus sur une tradition, une histoire qui nous aurait été transmise de génération en génération. C'est une norme nouvelle qui est instituée uniquement, et tous les instruments de mesure qu'on a situés tout à l'heure, on peut même mesurer l'acte sexuel. Est-ce qu'on est performant ou pas ? Performant. Ouais, ils ont même fait des émissions de télé là-dessus, enfin, c'est assez intéressant. Mais ce sont des normes qui sont uniquement basées sur des données scientifiques.
C'est quoi performance sexuellement ?
C'est-à-dire que ton cœur fonctionne correctement pendant l'acte, tes pulsations sont correctes, la durée de l'acte est correcte au regard d'une... correct au regard d'une certaine norme.
C'est quoi la durée correcte d'un rapport sexuel ?
Alors ça fera Alex, Alex scientifique est très parce que moi ça me laisse aussi pour toi. D'accord, on est d'accord. En tous les cas, il y a l'illusion d'une certaine norme qui nous dirait quel est notre poids, quel est le nombre d'actes sexuels qu'on doit avoir dans la semaine, dans le mois, dans l'année, combien de pas on doit faire dans la journée, combien de taux de sucre je peux absorber, etc. etc. Et ces normes-là nous sont données via ces appareils, alors pas par l'appareil lui-même, puisque l'appareil ne sort pas nulle part, il sort des inventions technoscientifiques. Et c'est la science qui vient nous donner les normes et qui viendrait nous donner 73 kilos, ce que je suis ou ce que je ne suis pas.
Si je puis me permettre, je suis désolé, je vais faire chier déjà d'entrée, je démarre, je vous préviens. Les gens qui ne me connaissent pas, vous allez savoir tout de suite. Si je puis me permettre, ta réflexion a 10 ans de retard et je suis très désagréable, je le sais, pour une raison très simple. C'est que tu pars du principe qu'on a la norme qui est présupposée, qui est antérieure à la mesure, et qu'ensuite on fait la mesure pour vérifier comment on se comporte vis-à-vis de la norme. Or, on n'en est plus du tout dans ce cas-là. On est dans la situation où on mesure tout, où il y a énormément de mesures qui arrivent et qu'il y a des gens qui disent, tiens, qu'est-ce que je peux extraire de tout ça ? Non pas nécessairement dans une norme qui soit absolue, mais par exemple par rapport à un individu donné, mais surtout, quelle est la pépite qui se cache dans cette masse de chiffres ? Et c'est plus du tout une question de se dire j'anticipe ce que ça doit être, je prévois la notion de normalité et je vérifie la conformité à la normalité. C'est j'ai ces trucs-là, essayons de voir si je peux en déduire quelque chose d'intéressant et de vendable. Et ça n'a rien à voir avec la norme à ce stade-là. Ça a plutôt à voir avec qu'est-ce qui sort, disons, qu'est-ce qui peut avoir un sens en termes d'exploitation, si j'en tire. Donc, ce n'est pas, par exemple, le fait que tu pèses tant de kilos, c'est le fait que tu te mesures 3 fois par jour. Auquel cas, si tu te mesures 3 fois par jour, je dis, tiens, cette personne, c'est la personne idéale pour que je puisse lui fourguer des espèces de coupes fines pour lui faire comprendre que... Etc. Et donc, je vais faire plein d'argent parce qu'elle est vulnérable. Donc, à la limite, son poids, je m'en fous. Le rapport à la norme, je m'en fous. J'ai juste une donnée dans laquelle je me dis, tiens, il y a quelque chose à tirer. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il y a 2 choses qui sont en train d'apparaître. J'en ai déjà parlé avec Raphaël. C'est d'abord le fait que la quantité de données qu'on capture de vous est gigantesque et la plus grande partie de ces données n'est pas utilisée, je vous rassure pour l'instant, mais elle le sera parce que les moyens de l'utiliser sont là. C'est juste que les gens n'ont pas eu encore l'idée de demander quelque chose à cette masse de données. Mais les techniques sont là. C'est là. Et deuxième chose, ce que les gens vont vous vendre, et ce qu'ils vont me vendre, et que j'achèterai, parce que moi je suis tout à fait en faveur de ça, c'est une notion qui dit ben, on va t'entourer d'une espèce de sentiment de confort dans lequel tu seras surveillé, tu seras monitoré, on prendra des décisions ou on te suggérera des décisions de bas niveau pour améliorer ta vie, et ça va vraiment les améliorer. Et simplement, on ne te jugera pas par rapport à une norme, on te dira tu sais par rapport à toi. On a remarqué que tu te sentais mieux quand tu étais à tel truc, toi. D'accord ? Et ça peut paraître idiot, mais j'ai participé il y a 2 ans de ça à justement quelque chose médical où on me capturait tout un tas de données dont tu parles, poids, glycémie, etc., tous les jours dans un cadre diabétique. Donc j'avais un iPod qui était en permanence relié à un serveur. Je montais sur une balance, elle envoyait tout de suite mon poids au serveur. J'avais un machin autour du bras pour compter mes pas. Enfin, tout ça, c'était fait. Le résultat des courses, c'est qu'on m'a dit... Ça marche mieux si tu utilises tes médicaments dans tel ordre par rapport au repas, la même posologie, la même quantité de médicaments, ça donne de meilleurs résultats, tu devrais faire comme ça. Et effectivement, c'est mieux. Ben ça, c'est une information qui n'était pas prévue, qui n'est pas une référence à la norme, qui est juste, on a analysé, on a dit, tiens, ça se passe mieux quand ça se passe comme ça, c'est de l'aléatoire. Et c'est ce que nous sommes tous en train de produire, on est tous en train de capturer des choses, et à un moment donné, quelqu'un va regarder ça et va pouvoir vous donner... des informations dont vous pourrez vous servir pour prendre des décisions.
Quelqu'un, mais qui en fait ?
Quelqu'un qui s'appelle une intelligence artificielle de bas niveau.
C'est quelqu'un, une intelligence artificielle ?
Ah, bien sûr.
Ah bon ?
Oui. À partir du moment où quelqu'un me parle, c'est quelqu'un.
À partir du moment où on parle à quelque chose, on peut le considérer comme
non,
quelqu'un ?
Non, c'est quand quelque chose me parle.
Quand
je parle à mon miroir, je suis fou. Quand mon miroir a mes réponses, c'est une personne.
Ouais.
D'accord ? Heureusement, je ne suis pas dans
pas
ces cas-là.
La folie, là.
D'accord. Non, mais quand j'ai dit quelqu'un, c'était un raccourci effectivement intéressant, tu fais bien de le faire remarquer, mais il y a des processus qui vont nous permettre de dire, tu sais, on a analysé tout ça, on en tire le sentiment que quelque chose, par exemple, un truc un peu grivois mais traditionnel, quelque chose qui serait des toilettes en permanence connectées à un système d'analyse et qui un jour me dirait, tu sais, j'irai voir le médecin à ta place et je lui envoyais tes dernières analyses, c'est pas idiot. il ferait des analyses toute la journée, il ne m'en parlerait pas parce qu'il n'a pas besoin, on reste dans une espèce de fourchette définie qui me correspond, mais qui à un moment donné il me dit, tiens, j'ai repéré un truc, c'est pas normal, parle-en à ton médecin, c'est pas idiot. Et en tout cas, ça, je pense que ça augmenterait ma durée de vie, personnellement.
Sauf qu'on part du principe qu'on a un bon monsieur qui a envie de se soigner et prendre soin de lui, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous. Hein. Moi, je fume, par exemple, je sais particulièrement que je ne devrais pas. Hein, et pourtant, je le fais. Et puis, j'ai nombreux patients auxquels on peut dire « Mais ça serait bien de faire comme ci ou de faire comme ça, ça serait mieux pour ta santé, tu vivrais plus longtemps. » Et qui font exactement le contraire. Malgré eux. C'est pas ou pas, mais souvent, c'est pas une sorte de choix réel, on ne peut pas dire ça, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui, aussi, chez l'être humain, est ambigu par rapport à la notion de bien-être et qu'on ne peut pas le réduire à simplement des bons conseils qui seront absolument pas suivis dans la pratique.
Si ce sont des conseils contraignants, non. Si je te dis d'arrêter de fumer et que c'est contraignant, non. Si par contre je te dis, tiens, plutôt que d'arrêter de fumer, continue à fumer, mais tous les matins tu bois un verre de jus machin parfumé à ton parfum, tu vas peut-être le faire.
Alex,
c'est une question de goût.
Ouais, hein. En fait, dans cette approche-là, il y a un mot qui est revenu souvent dans ce que tu disais, c'était le terme quantitatif. Et effectivement, quand tu parles d'ambiguïté, l'ambiguïté, on n'est pas dans le monde du quantitatif, on est dans le monde du sens. Et le sens, c'est quelque chose... je ne vois pas le rapport de la machine avec le sens. Je ne connais pas une machine qui crée du sens. Je vois des machines qui sont des outils au service du sens que veulent bien leur donner les humains. Mais je ne vois aucune machine qui a du sens en soi ou qui en crée. Alors que l'être humain, il me semble que dans sa psychologie, c'est un être qui crée du sens.
À condition d'être dans le langage, dans l'échange, dans la parole avec l'autre. Ce qui nous pose question avec ces machines-là, c'est que... On dialogue avec qui ? Enfin, c'est un peu la question que tu posais. Qui c'est qui est derrière tout ça ?
Les GAFAM.
La machine parle. Je ne sais pas, je ne pense pas que la machine parle. Derrière tout ça, il y a un discours. Ça, c'est certain. C'est le discours que tu as parfaitement décrit. C'est le discours de la science qui est derrière tout ça. C'est lui qui est à l'œuvre et qui nous donne maintenant un petit peu les guides et les repères pour nous déplacer un petit peu dans cette société où d'autres repères ont complètement disparu. Je pense à la religion qui a disparu.
Oui, au sens, oui.
Et qui donnait un sens
oui, voilà.
aux choses, mais qui a été dialectisé. C'est-à-dire que ça se parlait, ça se transmettait. Là, on a affaire à des outils qui ne nous transmettent pas, mais qui nous dictent les choses. Et on n'est plus tout à fait dans le même rapport. Qui nous informe. On est dans l'information.
Oui, il y a une autre question aussi. Là, on parle de médical. Donc, effectivement, ça paraît super. Mais enfin, j'ai l'impression que vous ne parlez que d'opérateurs privés, là. C'est-à-dire que la santé est gérée par le privé, en fait.
Je ne sais pas, après, économiquement
je sais
parlant...
Pas, ça, c'est, à ma connaissance, ce n'est pas financé par l'État français.
Non, mais... Tu peux avoir des applications financées par l'État français. Bien sûr, au contraire. Ben, ce que j'ai fait, c'était une étude qui était faite par le CHU de Purpan, à Toulouse, et qui, par conséquent, faisait partie de la Sécurité sociale et de l'État.
Mais si l'application privée, elle est moins chère ?
Ah mais encore une fois, là tu me parles d'un problème économique par rapport à la même chose. Si ça fait la même chose, si la voiture que je fais m'a été fournie par mon entreprise, j'ai dû l'acheter par un truc privé, c'est la même voiture, tu vois ce que je veux dire. Juste la même utilisation, c'est juste que le modèle économique n'est pas le même. Mais c'est quand même le même service, d'accord ? Et par contre, je reviens à cette histoire d'information. Il y a une pyramide qu'on connaît bien entre la donnée, l'information, la connaissance et la décision. D'accord ? Ce qu'un capteur vous fait, celui qui analyse, il vous dit, tiens, il y a une lumière qui vient d'apparaître sur une longueur d'onde de 173. D'accord ? Vous avez l'analyse d'information qui dit, il y a un feu qui vient de passer au vert. Vous avez la connaissance qui dit, puisqu'il est passé au vert, je peux démarrer la voiture. D'accord ? Et vous avez la décision qui dit, je démarre la bagnole. Mais pour l'instant, la capture, c'est, il existe une longueur d'onde qui vient d'apparaître de 173. D'accord ? Et le travail d'intelligence artificielle, c'est de transformer ça en une voix synthétique de votre voiture qui dit « Le feu vient de passer au vert, démarre, connard ». Bon, ça, c'est une intelligence artificielle déjà de bas niveau, mais ça, on sait faire.
Ça,
mais par contre, derrière, la décision consistant à dire « C'est vert, donc je peux démarrer », c'est une décision humaine. Et le fait de démarrer est bien entendu une décision humaine. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la situation comme quoi la voiture prendrait elle-même la décision de démarrer, sauf si elle était conçue comme telle. D'accord ?
Alors à ce sujet, je vais faire une petite référence à Peut-être tu connais Miguel Benassayag, qui est psychiatre, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Cerveau augmenté, homme diminué », dans lequel il parle d'une étude qui a été faite sur deux groupes tests, un groupe de taximens en Angleterre, un groupe de taximens en France, qui ont été équipés de GPS en France et pas en Angleterre. Au bout d'un an de pratique, ceux qui pratiquaient avec un GPS ne savaient plus se repérer par eux-mêmes dans l'espace. Ils avaient perdu la compétence. Donc en fait, l'idée, c'est que toutes ces choses qui permettent de nous augmenter nous aident à oublier qu'en fait, on était capable de faire sans. Par certains égards.
Est-ce que tu sais tuer un animal sauvage, l'égorger,
oui,
de manière à ce que... Tu sais le faire ?
Est-ce que quoi, pardon ?
Est-ce que tu sais tuer un animal sauvage et l'égorger,
ouais,
de manière,
okay,
à ce que son, ouais, sang, ouais, ne coule, ouais, pas et à ce que tu puisses garder sa viande comestible de façon plus truc. C'est marrant, c'est une idée que tu as oubliée. Et alors pourtant, je te promets que sur le plan de ta survie, ça joue un rôle extrêmement important. Bah, tu l'as oublié.
Ça, c'est bête. C'est bien,
ouais. Alors, sauf que par rapport au fait de tuer un animal, il se trouve qu'on a fait un michoui là, il n'y a pas longtemps. Et il se trouve que mon père était là, il se trouve que mon père était boucher à la retraite aujourd'hui. Et donc il m'a montré comment faire. Il a montré également à mon fils, donc à son petit-fils, comment faire. Donc c'était transmissible, ce savoir-là. Ce qui était rigolo dans l'histoire, c'est qu'il avait un outil. Un outil, c'était un couteau. Un couteau qu'il a acheté à ses 14 ans, le jour où il est parti faire son apprentissage, où il a quitté ses parents. Et ce couteau... Ben voilà, 60 ans après, il l'a toujours dans les mains et il a un peu perdu de sa lame, mais il coupe toujours autant. Donc c'est un couteau qui, symboliquement, est un outil pour lui qui dit long de son histoire et qui transmet quelque chose. Et je pense que si mon fils, un jour, a entre les mains ce couteau, ça lui parlera. Ça lui parlera de quelque chose, peut-être qu'il n'arrivera pas à tuer le mouton, mais ça lui parlera. Le problème de ces... nouvelle technologie, c'est qu'on n'est plus dans la transmission de quelque chose qui passerait de génération en génération. Je veux dire, moi, si je donne mon ordinateur à mon fils, il c'est clair, il me dit, il est dépassé ton truc. Donc c'est mort. C'est mort parce que ça avance trop vite et on est sans arrêt sur des nouveaux trucs. Il n'y a plus de transmission de ce côté-là. Il n'y a plus qu'une information qui nous est donnée au nom de la science. Et c'est le nom de la science qui vient faire loi pour nous, aujourd'hui, dans notre société. Pourquoi pas ? Il faut bien se référer à quelque chose. Je voudrais juste ajouter, c'est que la science ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout. Et ce qu'elle est en train de nous faire croire, la science, c'est qu'elle est capable, peut-être pas aujourd'hui, mais demain sûrement, qu'elle pourra tout. C'est juste une histoire de moyens, c'est juste une histoire de temps, c'est juste une histoire de chance de trouver le truc qu'on n'a pas encore trouvé. Et que demain... on aura le médicament pour soigner le sida. Eh bien non, on ne l'a pas. Et demain, on aura le médicament pour soigner le cancer. Ben non, on ne l'a pas. Et les questions sont sans arrêt repoussées plus loin et encore plus loin. Et la science continue de nous faire croire que demain, on trouvera autre chose. Mais il y aura toujours un trou derrière. Toujours un trou. Et c'est ce trou qu'il ne faut pas occulter.
Donc tu crains une espèce de fuite en avant, c'est ça de... Parce que la science a réglé quand même pas mal de problèmes, Jean-Claude l'illustrait bien. Et puis toi-même, tu as commencé par parler du diabète, qui est un exemple a priori positif. Et donc ta crainte, c'est une espèce de fuite en avant et d'insatisfaction. C'est-à-dire que oui, on a réglé des problèmes, mais il y a toujours un autre problème à régler. Et on est toujours frustré de ne pas avoir réglé le problème d'après ou quelque chose comme ça.
Il y a un exemple sur l'écologie, le modèle américain. Depuis que la question écologique se pose, les Américains ont un principe, on ne va pas mettre en place des solutions de compensation ou d'équilibrage des questions écologiques, on va miser sur le fait qu'on va inventer à un moment un truc qui va tout solutionner. Parce qu'on est les Américains et qu'on est plongé dans le futur et qu'on invente la science du monde et qu'on va trouver. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont toujours pas trouvé et ils polluent le monde à un point inimaginable. Mais ils ont ce gambit. On va trouver un truc, ouais, un jour ou l'autre.
Un discours religieux qui
c'est
dit
de la religion.
Ils ne laisseront pas tomber quand même.
Et c'est ça, de la religion, c'est le scientisme.
Oui, mais la religion en tant que religion, où l'américain moyen te dit « Dieu ne nous laissera pas tomber », c'est un truc que tu entends extrêmement fréquemment.
Voilà, la religion et Dieu qui se mélangent, qu'est-ce que tu peux contre ça, quoi ?
C'est trop.
Bon, donc, si tu comprends bien...
Ouais, excuse-moi, une petite remarque par rapport au cancer. Si tu entends quelqu'un qui dit « On va guérir le cancer », tu entends un politicien. Si tu en parles à un médecin, il dit « Je veux que 75% des cancers de ce type soient détectés plus rapidement et réglés de manière truc pour que seuls 25% des gens meurent par rapport aux 50% d'aujourd'hui. » Ça, c'est une réflexion de médecin, une réflexion qui dit « On va progresser dans la détection et j'espère dans le soin, en faisant des soins, le truc. » Mais on ne dit pas « On va résoudre le cancer. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est une invention de journaliste ou une invention de politicien. C'est de la simplification à outrance. Quand on est sur le terrain, on ne dit pas « je vais faire ça ». Par contre, on dit, et on le fait depuis 20 ans, on détecte de plus en plus tôt certains cancers et on les traite de mieux en mieux. ça se mesure. Mais on n'a pas résolu le cancer. On fait des progrès.
Si je peux essayer de synthétiser un peu ce qu'on vient de dire là. Donc, si je comprends bien, il faut faire une distinction entre la mesure elle-même. La mesure elle-même, à partir de l'exemple du PES-personne, est un bon exemple. La mesure elle-même, ce n'est pas un problème, c'est un truc, c'est un fait, c'est une mesure. Voilà. Exactement. Donc la mesure, c'est bon. Ensuite vient le problème de qu'est-ce qu'on en fait, la norme. Donc c'est ce que vous disiez. Qui est en train d'utiliser cette manière et de quelle mesure. Et donc le PES-personne, là, personne te faisait le truc directement. C'est-à-dire que tu n'avais pas l'interprétation de ton poids. Enfin, ce que tu devais faire avec ton poids, ce n'est pas ton PES-personne qui te le dit.
C'est ton médecin de famille.
Voilà, exactement. Donc c'est déjà plus un humain. Voilà. Maintenant, avec ces appareils-là, c'est intégré, en fait. C'est-à-dire que la décision, enfin la recommandation, elle peut être intégrée directement à l'objet de mesure. Quoi.
Ouais, au chômage, les médecins de famille.
C'est là que la crainte... Et alors vient la question, et vous l'avez bien évoqué, de qui est la personne qui te fabrique l'application. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des politiques? Est-ce que c'est des gens,
c'est
des GAFA?
Tu parlais des GAFA. Les médecins, ils ne fabriquent pas des logiciels, ce n'est pas leur boulot. Quoi.
Oui, mais ils peuvent faire partie
du truc. Ils sont consultés, oui, d'accord.
Donc ce qui importe, enfin, pour moi, ce qui est important, parce que c'est assez inéluctable que ces objets-là, inéluctable, qu'ils existent, ouais. Ils existent, ils vont pas disparaître, hein. On peut essayer, mais ils vont pas disparaître, c'est d'essayer au mieux de contrôler un peu la façon dont sont traitées ces données. Quoi.
Qui contrôle?
Personne. Enfin, tu sais, je vais te poser la question tout à l'heure, parce que toi, tu sais, c'est Monsieur Geek, c'est ça?
Oui, Monsieur Geek, il sait tout, mais il dit pas tout. Il veut que vous achetiez les volumes de la série pour en savoir plus.
C'est écrit à la fin. Juste pour la petite histoire concernant le PES-personne, en fait, cet engin-là a été créé en 1600 et quelques par un mec qui s'appelait Guillaume Personne. Bon, voilà.
Ah, donc c'était vraiment fait pour peser personne.
Et en fait, ça pèse personne, ce truc. Ça pèse son auteur, quelque part. Ça, c'est sûr. Sauf que le mec, à l'époque, il n'avait pas les capteurs électroniques qui lui permettaient de mesurer la tension du ressort. Et donc, son truc est tombé à l'eau et a été retrouvé 2-3 siècles plus tard pour en faire nos pèses personne aujourd'hui. Mais c'est rigolo, l'histoire. Et quand je dis que ça porte bien son nom, c'est que ça pèse personne. C'est-à-dire que le sujet ne peut pas trouver le poids de ce qu'il est là-dedans. C'est ça qui est important. Tant qu'on n'est pas dans cette illusion-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on a l'impression qu'on se réduit à la donnée informative qui nous est donnée et qu'on n'est plus que ça.
Alors, j'ai envie de te demander, les gens qui se pèsent régulièrement. Donc, il y a des gens pour qui, je pense qu'il y a des gens, enfin j'espère qu'il y a des gens pour qui c'est relativement utile pour rester dans une zone de poids, de confort. Alors évidemment, elle n'est sûrement pas un kilo près, on est bien d'accord, il y a une grande plage. Et puis, il y a des gens qui vont peut-être pas, ce qui se pèsent trop souvent... vont glisser soit vers la boulimie, soit vers l'anorexie. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer sur les mécanismes qui font qu'on utilise ces données à bon escient ou à mauvais escient? On peut sans doute l'appliquer à bien d'autres choses que le pèse-personne.
Ouais, non, mais ce qui est difficile, par exemple, avec l'anorexie ou la boulimie, c'est de ne pas réduire notre relation de soignant, on va dire ça comme ça pour être large, au soigné, autour de la question de la donnée uniquement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'anorexique nous amène à n'être que autour du 33 kilos, 32 kilos, 31 kilos. Il n'y a plus que ça qui compte. Et j'ai gagné 100 grammes, alors j'ai le droit d'appeler mes parents. Et j'ai perdu 100 grammes, alors tu n'auras pas le droit de sortir ce week-end. Et il n'y a plus que la donnée qui compte. Et tout se réduit, tout le champ de la relation à l'autre se réduit à l'information. Et elle nous amène à ça. On voudrait s'en sortir, elle nous amène à ça, parce qu'il y a une question de vie ou de mort aussi derrière. Donc elle est capable d'aller jusque-là. Et le soin, avec elle, c'est d'essayer de s'écarter de ça, de se dégager de la donnée purement informative pour ouvrir un autre champ. Et avec tes parents, ça se passe comment? Enfin, je sais pas, et ton histoire, enfin... réintroduire du sens.
Et en ça, donc je me fais un peu l'avocat du diable par rapport à toi, et en ça, un pèse-personne connecté, donc amélioré avec une intelligence artificielle, quelqu'un, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, peut pas t'aider, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la démarche d'aller voir un médecin, et qui sont très isolés, très seuls, il y en a de plus en plus dans la société moderne. Est-ce qu'on peut pas, je me fais un peu l'avocat du diable par rapport à vous, hein, est-ce qu'on peut pas imaginer des objets connectés qui t'accompagnent? Donc qui accompagne tes mesures.
Big Mama est là avec toi tout le temps. Ne sors pas, pense à mettre ton écharpe,
ouais,
etc. En fait,
exactement.
On est des gros handicapés. On décide qu'on vit une vie d'handicapé et que la machine va nous dire tout quoi faire comme maman.
Mais je pense qu'il y a des gens qui ont décidé ça.
Il y a des gens qui ont besoin de ça, vous pensez?
Non, je ne pense pas.
Qui ont décidé ça, d'accord.
Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça.
Je pense au Canada et aux États-Unis. On a d'autres pathologies assez compliquées. En psychiatrie adulte à Saint-Jacques, là, on vit avec ça tous les jours. C'est des patients qui sont dits psychotiques, c'est-à-dire qu'ils ont a priori une sorte de refus d'acceptation de leur maladie et pour autant qu'ils sont hyper handicapés du fait d'entendre des voix, du fait d'être déconnectés du rapport à l'autre, du fait d'être enfermés dans leur délire chez eux tout seuls, etc. Donc on les sent très malheureux, ces gens-là, et on aimerait les aider. Et ils ne sont pas toujours prêts, et loin de là, à accepter notre aide. Aux États-Unis, ils ont trouvé une idée, ça serait de mettre des implants dans leur petit cerveau pour leur rappeler qu'il y a des médicaments à prendre et que si ce n'est pas pris, c'est directement connecté sur le bureau du docteur qui voit si le monsieur a pris son médicament ou pas chez lui. Et s'il ne l'a pas pris, on envoie les infirmiers. Mais dans quel monde on va ? Enfin, c'est aussi une question.
Le flicage au niveau individuel de chacun à l'atome près, au final, quoi. Chaque cellule de votre corps est surveillée, informée.
Après, je pense qu'on peut, comme par rapport au diabète ou par rapport au poids, utiliser ces outils-là de manière intelligente. Je pense que tout à l'heure, dans la conférence d'avant, j'ai entendu vaguement, mais il y a un monsieur qui disait, mais comment on peut trouver une éthique autour de ça ? C'est ça qui me paraît important. C'est pas que ces données soient inintéressantes, au contraire, je pense qu'elles le sont vraiment et qu'elles peuvent vraiment nous aider et nous... En tant que soignants, par exemple, et ceux qui peuvent avoir des difficultés à gérer leur vie pour différentes raisons, mais il faut pouvoir poser une éthique autour de l'utilisation de ces objets-là. Et qui va la poser ? Certainement pas la science. La science, c'est pas son job. La science, c'est d'avancer. Hein ? Après, est-ce que c'est au niveau politique ? Au niveau politique, je repensais au slogan de Nicolas Sarkozy : avec moi, tout est possible. Il n'y a pas d'éthique. Et je dis Sarkozy parce que c'était sur son truc machin, mais ils sont tous un peu comme ça, à promettre que demain sera possible.
Ouais, la France est assez exceptionnelle avec ses comités de réflexion, de principes de précaution, etc. On passe pour des has-been dans pratiquement le monde entier avec ça. Hein. Donc il y a des chances que ça s'arrête, en fait. Parce qu'il suffit de se dire, mais on se pose la question de c'est bien la science, mais à quoi ça sert ? Est-ce que ça nous sert vraiment ou est-ce que ça nous dessert, etc. Oh, vous êtes has-been, il y a du fric à se faire. Fermez votre gueule.
Si je comprends bien, en fait, mine de rien, vous avez tous dit que c'était bien la science, mais il y en a qui ont foi dans ce qu'on peut en faire et d'autres
qui
n'ont pas
foi. C'est une question de foi, ça, complètement. Exactement. On est dans le religieux
et
toujours
autant. Et d'autres qui ont peu de foi dans ce que les gens vont faire de toutes ces mesures-là. J'aurais glissé sur un autre sujet, enfin, c'est le même sujet, mais un autre aspect de la question, c'est que toutes ces données, elles sont quand même très nombreuses. Il y a les données donc, personnelles, mais il n'y a pas que les données personnelles, il y a les données des données environnementales. Il y a plein de données qui rentrent dans ce qu'on appelle ce big data, là, cette sphère numérique énorme. Et donc la grosse question que vous êtes en train de débattre déjà, c'est qui utilise ces données. Et alors toi, Alex, dans ta série de romans les Contes du Soleil Noir, Monsieur Geek, ouais. Il a accès à l'intégralité de ces données.
Ouais. Il n'est pas le seul. Hein. Il dit qu'il fait partie d'un réseau. Quand il n'a pas l'info, il va demander à un pote.
Et donc j'imagine qu'il a en particulier accès à toutes les données de mon smartphone. Et de
il a accès à votre webcam, la tienne. Hein. Quand tu es sur Facebook, il voit ce que tu écris. Quand tu postes sur Instagram, il a vu ce que tu avais fait.
D'accord. Et donc je pense que le public serait assez intéressé de savoir ce que tu as imaginé là-dessus. Quelles sont les utilisations de ces données que M. Geek fait? Est-ce que tu peux nous effrayer ou nous rassurer?
Non, en fait, M. Geek m'a été pas mal inspiré par un personnage de identification des schémas, un titre génial d'ailleurs, de William Gibson, dans lequel le personnage principal est payé par des entreprises pour faire des profils sur la base de tous les mouvements bancaires à partir des cartes bancaires. C'est-à-dire que quand on sait ce que vous faites avec votre carte bleue, on sait tout de vous. On sait si vous avez un amant ou une maîtresse, on sait où vous mangez, ce que vous mangez, on sait tout de vous, en fait. Donc, à partir de là, si en plus on rajoute Instagram, Facebook et tout le reste, en fait, on sait qui vous êtes, on connaît vos goûts sexuels, on sait la musique que vous aimez, on sait tout.
Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui fait, Monsieur Geek, de toutes ces informations ? Enfin, je pense que
il trouve des cas particuliers. Lui, sa spécialité, c'est lorsqu'il se passe quelque chose d'étrange, de bizarre, qui sort de la grille de lecture normale. Et il essaie de rassembler des indices et des informations à partir de tout ce qu'il a pu trouver sur le net.
Donc, c'est un enquêteur du Big Data ?
Mais il y a des... Il y a des phénomènes qui existent déjà pour un certain nombre de projets. Il y a un projet que j'avais audité au niveau de la Commission européenne il y a quelques années de ça, que j'avais évalué, je crois que je n'avais pas audité, où tout simplement c'était un fabricant de voitures italien, je ne vais pas vous donner plus de détails que ça, qui s'étant aperçu à l'époque que quand les gens ont un problème avec leur voiture, ils ne vont plus chez le concessionnaire parce que c'est trop cher. Donc, ils vont changer leur pare-brise chez machin, leur pot d'échappement chez truc, leur pneu chez autre chose. Donc, les problèmes ne sont pas vus par le concessionnaire et ne remontent pas donc à la société qui a quand même besoin de savoir quels sont les problèmes des voitures. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé à faire des analyses Facebook parce qu'ils se sont aperçus qu'en Italie, l'endroit où on se plaint de sa bagnole, c'est sur Facebook. Donc, ils ont récupéré plein d'informations de gens qui disaient « j'en ai marre de ma machine, etc. » qui m'a encore fait ça. Et donc, ils récupèrent par ce moyen-là les informations qui leur permettent de détecter les pannes les plus fréquentes de leur voiture pour les améliorer, à partir d'informations qui n'ont, a priori, rien à voir avec ça. Ce n'est pas fait pour ça, mais ils l'utilisent de cette façon.
Bah alors, c'est super.
C'est pas que c'est super, c'est typiquement une illustration de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire on a cette masse de données à différencier qui est gigantesque, et dedans, il y a des choses qui peuvent m'aider à répondre à la question que je me pose. Donc j'écris la forme d'épuisette qui va capter dans les données les informations pertinentes pour la question que je me pose, je les ramène et j'en tire quelque chose. Et
par exemple, avec une autre qu'est-ce qu'un tel va voter, par exemple ? Ça peut marcher ? Qu'est-ce qu'un tel X ou Y va aller voter aux élections ?
Ça peut être une idée, mais ça peut être ça, mais je veux dire... La question est très simple parce que là, typiquement, tu es dans un acte de volition. Et or, justement, les actes de volition, c'est-à-dire aller voter, c'est un acte de volition. Je vais volontairement voter. Avoir un problème avec sa voiture, ce n'est pas du tout un acte de volition. C'est quelque chose qui est un événement qui se produit de la même façon que ma glycémie n'est pas un acte de volition. Tu vois ce que je veux dire ? Les actes de volition, il faut savoir qu'on a énormément de mal à les modéliser parce que les gens, par nature, ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Curieusement, les gens sont menteurs. J'ai appris ça en regardant Dr House. Everybody lies. Tout le monde ment. Alors que, par contre, la glycémie ou les pannes de voiture, personne ne ment à propos d'une panne de voiture. Ça arrive, c'est tout. D'accord. Donc, à ce moment-là, tu captures un type d'information qui est différent. Mais le phénomène est véritablement ça. Il y a des données indifférenciées et à partir de là, je fabrique l'épuisette qui m'extrait l'information dans la masse de données.
Concernant la mécanique, alors ça m'intéresse bien. Ça. Je suis en train de réparer un Renault Scénic. Alors bon, voilà. Et il y a aujourd'hui, alors il y a 20 ans, j'avais réparé une 404. Et c'était plutôt simple. Je connais rien en mécanique, mais c'était plutôt simple. Tu prends le, tu, voilà, il y a une mécanique relativement simple en fait. Il suffit de se poser un peu la question comment ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai affaire à un problème. C'est qu'il me faut une valise électronique de chez Renault. Si je n'ai pas l'outil, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que ces hautes technologies m'empêchent, moi, d'accéder à un bricolage qu'on aurait pu, que je pourrais transmettre à mon fils, qui aurait pu être transmise par mon père ou par un ami ou par je ne sais pas qui. Et ben, cette transmission, elle ne sert plus à rien parce que si tu n'as pas la valise...
D'entreprise.
T'es mort.
C'est la propriété de l'entreprise, en fait.
C'est génial, ça veut dire que ça crée des emplois. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens comme toi travaillent pour rien et les enfants aussi, ça veut dire qu'on a été obligé maintenant de payer quelqu'un pour faire ce boulot, donc on a créé de l'emploi. C'est extraordinaire. Ce que tu viens de me dire, c'est une avancée de la société.
C'est pas exactement la tendance, hein. Effectivement, que l'État. Ah oui, d'accord.
Je connais Jean-Claude, c'est ironique.
Je suis en train de faire de l'ironie, si tu veux. Là,
pardon, désolé.
Excuse-moi, je pensais que ça se voyait. Je sais pas, vous me connaissez peut-être, mais c'était vrai. Bon, c'était vraiment de l'ironie. Mais désolé, ça a cette dimension aussi. Le fait est que, par contre, beaucoup plus de gens font réparer leur voiture qu'à une époque parce que les voitures sont trop compliquées. Donc, paradoxalement, la complexité a créé des emplois.
Donc, à quoi ça sert ? Ça sert aussi à nous confisquer la possibilité d'agir un peu sur notre vie, sur ce qui nous entoure, ma voiture ou autre chose, et d'être obligé de s'en remettre à des spécialistes, à des experts qui sauraient, qui ont mis en place les moyens pour nous empêcher d'avoir accès à cette possibilité-là.
Si Sarah est dans la
mais
salle...
Mais elle n'a pas un bracelet électronique pour la retrouver ?
Tout fout le camp.
C'est utile.
Jean-Claude, toi, je sais que tu travailles vraiment à cette idée de ces données personnelles et les autres participent d'une espèce de ouais, système beaucoup plus large, d'une espèce de matrice qui commence à nous entourer, nous, individus. Et ouais, le mot magique. Mais individu et peut-être même groupe d'individus. Voilà, ouais. Cette foule devant nous, elle est en fait...
C'est un concept sur lequel j'ai fait un certain nombre de présentations et sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle la matrice attentive. Ça veut simplement dire qu'on a la possibilité de mettre en place trois sortes de choses. D'abord, des capteurs de données qui capturent vos données partout. C'est la première chose. Deuxième chose, des modélisations de ce que doivent être une réaction attendue pour lequel vous êtes content, pour lequel vous avez payé, vous êtes prêt à payer, par rapport au traitement de ces données, et ensuite, l'outil de traitement de ces données. L'outil de traitement de ces données, c'est ce qu'on appelle les techniques d'intelligence artificielle au sens large, mais croyez-moi, le terme d'intelligence, c'est faux. C'est juste des outils, ils sont à peu près aussi cons que des tournevis, mais ils font le boulot.
D'accord ? Ils analysent des données, ils font des choses. Et vous avez ensuite des modèles. Donc, effectivement, ce que tu appelais les normes pour dire il faut que ce soit comme ça. Mais il faut savoir que ça existe partout et ça vous renvoie, ça peut vous renvoyer le sentiment d'abord que vous êtes important, le sentiment qu'on s'intéresse à vous. C'est la fameuse maman dont tu parles. Et ce fait, c'est la matrice attentive, littéralement. Et c'est quelque chose que je vois s'installer de plus en plus dans l'espace public, dans les aéroports, qui sont des endroits que je fréquente beaucoup, dans certains magasins. Aux États-Unis, vous entrez dans un magasin, vous êtes une personne connue, ils ont votre profil 3D, ils ont des espèces de cabines téléphoniques dans lesquelles vous allez vous faire littéralement photographier en 3D avec des espèces, vous savez, le truc lumineux qui remonte en laser, qui vous fait véritablement un profil de vous complet, vous faites ça en sous-vêtements, et du coup, vous introduisez la carte qui vous représente dans un rayonnage, et vous avez les fringues qui vous vont, qui sortent. Celles qui vous vont, pas celles dont vous pensez qu'elles vont vous aller, celles qui physiquement vont bien s'adapter à votre corps, celles dans lesquelles vous serez confortable.
Mais il y a un vendeur ou une vendeuse à cet endroit-là ?
Justement.
Il n'y en a plus.
Si, justement, l'intérêt de la vendeuse, c'est de te dire... C'est de te dire, cette couleur ne vous va pas. Par contre, elle ne te dit pas, j'ai pas de 55, vous devriez essayer le 56, tu vois. C'est le machin te dit, j'ai ça. Quelquefois même, le simple fait que tu rentres dans le magasin et que tu cherches quelque chose, va faire qu'on va faire venir des stocks, le modèle dont tu vas avoir besoin. D'accord, le stock, ils sont à l'arrière en grande quantité. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que vous avez autour de vous une espèce de pellicule entre vous et la réalité brute qui va s'intéresser à vous.
Pour alors, vous amener tous les produits de consommation qui sont adaptés pour vous en permanence.
C'est un des aspects qui peut aussi s'occuper de ta santé, qui peut aussi s'occuper de te faire prendre le chemin qui ira le plus court, qui peut aussi s'occuper de te maintenir en contact avec les gens que tu aimes, ou simplement de te renvoyer le sentiment de ta propre importance. Et ça, ça veut dire que nous sommes dans une situation actuellement où l'être humain, je vous dis pas que c'est bien, je vous dis ce qui est en train de se produire. L'être humain actuellement supporte de moins en moins l'idée que l'univers est une chose froide et indifférente à eux. Les gens, quand on leur dit « oui, mais en fait, l'univers se fout de toi », alors soit ils se tournent vers la religion, soit ils se tournent vers, je sais pas, vers la communauté qui leur dit « mais si, tu es important ». Le sentiment de la propre importance, de sa propre importance, c'est une chose fondamentale pour la plupart des gens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que des processus semi-automatisés peuvent aider à renforcer. Je ne dis pas qu'ils peuvent l'assurer, mais ils peuvent aider à renforcer et à en éliminer quelquefois les aspects les plus désagréables. Et c'est en train de se mettre en place. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je vais laisser la parole à mes petits camarades qui visiblement ont leur idée. Je dis juste que tous les outils en place sont là. Tous les mécanismes et les processus d'analyse, de modélisation sont là, et qu'il n'y a qu'à trouver une idée pour faire de l'argent pour qu'un nouveau processus se rajoute à la couche. Et croyez-moi, la couche, elle est beaucoup plus importante que celle que vous pensez. La matrice existe déjà et elle s'épaissit, je dirais, de jour en jour. À vous maintenant, démontez-moi ça.
Il n'y a pas à démonter. En effet, c'est là. C'est là, on est bien d'accord. Moi, j'aime beaucoup le terme de Big Mama, la mère toute puissante. Ce n'est pas Big Brother. C'est vraiment la matrice.
Apparemment bienveillante. Apparemment.
Et trop bienveillante. Je rappelle un mec qui écrivait en Angleterre, Winnicott, pour ne pas le citer, mais il est bon qu'une mère ne soit pas trop bonne, voire qu'elle soit suffisamment mauvaise. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas si bienveillante que ça. Qu'elle soit suffisamment malveillante pour que l'enfant puisse trouver sa place. Si la mère... Elle a dans la toute-puissance, est capable de répondre à tous les besoins de l'enfant, de le protéger de tout. L'enfant, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se sortir de cette matrice-là. Il est emprisonné dedans. Et c'est ça qui va nous donner la psychose plus tard. Pour qu'un enfant puisse grandir, il faut que la mère, à un moment, puisse dire, là, excuse-moi, mon petit bonhomme, je suis ta mère, mais je suis aussi une femme et j'ai autre chose à faire que m'occuper de toi. Et si elle n'est pas capable de faire ça, l'enfant, il ne peut pas s'en sortir.
Ça peut se coder, ça. On peut faire une Big Mama qui te met des claques de temps en temps. Hein. C'est pas...
Tout à fait.
C'est une simple question de réglage du modèle. Hein. Je suis désolé. Hein.
Qui va régler le modèle ? Qui règle le modèle ?
Par la méthode des essais et des erreurs. Si tu me dis que 20 ans plus tard, ça fait un groupe de psychotiques, eh ben à ce moment-là, on reviendra un petit peu sur le truc. Si tu me dis que 20 ans après, les gens ont l'air plus heureux et plus équilibrés, on peut peut-être faire une analyse rétroactive. Tu prends dans la population actuelle les gens dont tu te dis, dans le fond, ils en sont bien tirés, ils ont fait de la résilience, etc. Tu fais une analyse rétroactive et tu dis, tiens, s'il y a un groupe de paramètres à peu près communs, c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'établir. Tu travailles par la méthode des essais et des erreurs. C'est comme tout le monde. Hein. Par contre, si tu vois des gens effectivement complètement abîmés, détruits ou qui ont des vrais problèmes et que tu vois des constantes, tu peux peut-être dire, ça, c'est le domaine à pas autoriser. C'est le domaine, au contraire, à empêcher.
Ce qu'on voit aujourd'hui, moi, je trouve... Je n'ai pas de stats précises là-dessus, mais ce que je vois, c'est quand même qu'on est... On a créé une société où, au nom de la science, on a fait évoluer plein de choses. Mais aussi, On est quand même le siècle dernier, c'était le siècle le plus meurtrier que l'histoire a pu connaître. Il y a eu des drames inimaginables, des choses qui se sont passées au nom de la science. Au nom de la science, le nazisme a été éliminé, une autre race qui était jugée inférieure. Scientifiquement parlant, hein, c'était sur des bases scientifiques leur truc. Donc la science, elle n'a pas d'éthique en elle-même. Alors qui va faire l'éthique? Qui va faire le père
le boulot de
la à la Big Mama?
C'était le boulot de la philosophie. Le philosophe se place comme la personne qui englobe les différents sujets et place des questions éthiques et des choses comme ça.
Je pense que l'écologie, tu en parlais tout à l'heure,
l'écologie neuve.
Peut avoir une place un peu comme ça de relativiser les progrès de la science.
Merci messieurs. On va prendre quelques questions dans le public, voir un peu s'il y a des réactions au point de vue... Oui monsieur, je ne sais pas où sont les micros, ils arrivent de derrière.
Il y a quelqu'un? Bonjour. Alors d'abord, pour échapper à monsieur Guy, qu'il existe les VPN. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un VPN? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même.
Là, il sait le contourner, ton VPN. Hein. T'en fais pas. Hein.
Ouais, vous êtes sûr de tout ça?
C'est monsieur Guy, quoi.
C'est un peu SF, ça.
Il n'y a pas pour rien qu'il s'appelle monsieur Geek. Hein.
Et alors, ma question subsidiaire est pourquoi on est tous trop cons, et moi le premier, pour laisser toutes nos données traîner partout? Pourquoi l'être humain, aujourd'hui...
C'est culturel. À partir du moment où tu as Angelina Jolie qui a un code-barre tatoué dans la nuque et que tout le monde trouve ça génial, c'est culturel.
Même si on n'aime pas les codes-barres?
Ouais, mais ta fille de 14 ans, elle ne se posera pas la question, elle trouvera ça super.
Non, mais tu veux pour lui, c'est Angelina Jolie.
On ne les laisse pas traîner, les données. On les affiche.
La seule question qu'il y a maintenant et qui empêche, je dirais, la matrice de s'épaissir instantanément, c'est la question de la propriété de la donnée. Et ça, croyez-moi, c'est une bagarre qui existe entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, par exemple, autour du droit d'auteur, du copyright. On vous dit, oui, les problèmes de droit d'auteur actuellement en France et les problèmes des auteurs de bande dessinée qui n'arrivent pas à vivre, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Le droit d'auteur, c'est l'aéronautique, c'est la chimie, c'est ça le droit d'auteur. Et ça représente des masses d'argent tellement plus importantes que les auteurs, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils n'ont aucune voix dans cette histoire-là, ils ne sont pas assez puissants. C'est déjà une chose...
Ah non, on ne sert à rien, heureusement qu'on en est conscient pour la plupart.
Moi, en tant qu'écrivain, je peux te dire que je vis là-bas, à Bruxelles, je fais partie des comités qui regardent, et bien je peux te garantir que je sais que je ne sers à rien, et qu'on me le répète jour après jour, qu'à chaque fois je fais un truc là-bas. Donc, le problème de la propriété de la donnée. Exemple tout bête, on a des GPS sur nos voitures, vous avez une ville qui dit « je voudrais utiliser les données de ces GPS pour essayer d'optimiser mes flux de circulation pour qu'il y ait moins de bouchons ». Problème, on ne peut pas. Pourquoi ? Le GPS, la donnée du GPS appartient à la personne à qui possède la voiture, mais aussi à la personne qui a installé le GPS dans la voiture, qui a mis le système en location. C'est-à-dire que les données n'appartiennent pas à l'utilisateur, elles appartiennent aussi à la personne.
Ah, pareil sur
ces
Facebook.
Données, quand tu les captures, par exemple, par le fait que ta voiture, tu l'as fait passer devant un capteur externe, tu mets en contradiction le fait que la donnée capturée par le capteur externe est contradictoire par rapport au fait que moi, dans ma voiture, je possède le fait que je suis là et que c'est moi qui ai décidé d'être là. Donc, tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, et croyez-moi, il y a des batailles d'avocats absolument phénoménales, on ne pourra pas tout utiliser. Par contre, la démarche consistant à dire « je mets à disposition mes données », c'est une démarche qui, pour beaucoup de gens, et en particulier pour beaucoup de jeunes gens, est une démarche volontaire. J'ai connu une jeune fille qui me disait « on met tous dans notre promotion des photos de nous beurrés sur Facebook, parce que si les recruteurs veulent choisir quelqu'un qui n'a pas de photo beurrée, eh ben, ils ne vont pas faire appel à notre promo et ils vont peut-être réaliser à un moment donné que ça ne sert à rien parce qu'on l'a tous fait. Cette personne, c'était ma fille. Hein. Donc, je le sais et c'est une démarche mentale. C'est une démarche mentale parfaitement exacte. Et donc, les gens peuvent décider de dire « je mets mes données parce qu'elles sont importantes pour permettre aux autres de se rendre compte qu'ils sont comme moi ». C'est aussi une façon de dire « nous sommes tous pareils ». C'est un acte de foi également.
Oui, tout à fait. Au niveau de l'université, c'est la même chose. Tous les outils qu'on met à disposition de nos étudiants ne sont pas utilisés. Et en fait, ils utilisent les outils Facebook et dans lesquels ils vont donner leurs données. Et pour communiquer avec mes étudiants, je suis obligé de passer par Facebook. C'est la seule communication qui, au bout d'un quart d'heure, fonctionne. Toutes les autres formes de communication, je n'arrive pas à les contacter.
D'accord, la fac de demain, c'est Zuckerberg. Sur Facebook, c'est ça.
La fac de demain, ça sera Zuckerberg qui la finance, en fait.
Ah bon, on espère que non, on se bat quand même contre, hein, faut pas croire. Il y a quand même des réactions.
Les irréductibles.
Mais pas du tout, non, je pense qu'on est...
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux communiquer avec tes étudiants ou tu veux communiquer avec tes étudiants dans la manière dont moi j'ai décidé qu'on communiquera avec les étudiants? Point. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que si c'est communiquer avec tes étudiants,
La priorité, c'est de communiquer. Après le reste, on pourra toujours discuter. Merci.
Merci à toi. Est-ce que je vais prendre d'autres questions, s'il y en a ?
Oui, j'ai une petite question. Vous allez peut-être me trouver un peu naïf ou un peu tatillon, mais je me posais la question, en fait, c'est moi ici. Ouais. Je me posais la question, est-ce que vous trouvez légitime, en fait, de ne pas faire de distinction entre, d'une part, l'appareil à glycémie que va me donner mon médecin et, d'autre part, la montre connectée que je vais acheter dans le commerce et qui ne va pas forcément avoir le même but ? Parce que si j'achète dans le commerce une montre connectée qui va me donner mes pulsations au fil de la journée, de mon point de vue, en tout cas, ça peut avoir deux buts. Soit de frimer auprès des collègues en me disant ben, « voilà, moi j'ai une montre connectée, voyez quelles informations utiles ça peut me donner. » Et à la limite, voyez à quel point je suis en bonne santé. Ou ça va simplement répondre à un besoin de ma part en me disant bah voilà, cette montre, elle va me prévenir des maladies, mais rien de plus. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction quand même à faire entre les deux ? D'un côté, un point de vue médical, et de l'autre côté, un point de vue strictement commercial.
L'important, c'est que les gens soient capables de la faire, cette différence. Le jour où le public n'est pas capable de faire la différence entre consommer de la santé publique et consommer de la santé privée, là, on a une emmerde, effectivement. Il faut que les gens soient capables de tracer la ligne, quoi.
Oui, c'est très important que les gens soient capables de dire « Je veux refuser la vaccination parce qu'après tout, ça ne sert qu'à enrichir les laboratoires qui fabriquent les vaccins. » C'est très, très important que ça puisse être fait. Et je soutiens... Excuse-moi, je suis encore en train de dire des conneries, hein, mais je le précise bien au cas où les gens se posent des questions. Parce que ça, typiquement, c'est une situation dans laquelle des gens me disent « Au nom de ma liberté de penser, j'estime avoir le droit de considérer que l'auteur, enfin, la personne qui me vend un vaccin, en fait, il me le vend parce qu'il veut faire gagner de l'argent au laboratoire. » Voilà. Eh bien, très bien. OK. Mais ces personnes-là, j'ai un souci. Bon, je sais bien qu'ils meurent avant, mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est leurs enfants qui meurent avant, c'est pas eux. D'accord ? Donc, à la limite, ils sont en train de souffrir, faire souffrir des gens qui sont totalement, je dirais, innocents de la chose. Voilà. Donc, je suis désolé, mais là, sur ce sujet-là, je suis un petit peu tendu quand même.
Alors, sans rentrer dans la polémique du vaccin, parce que c'est un peu complexe, mais oui, il faut distinguer l'appareil glycémique qui mesure la glycémie, qui est un appareil fourni par un médecin, ou voilà, et puis un appareil vendu dans un gadget. Le problème, c'est que le gadget est vendu comme un appareil médical, est utilisé comme un appareil médical, et nous fournit un savoir médical sans plus en passer par le médecin. Et il suffit après d'aller sur Internet, on a Doc Machin Truc qui nous dit tout de notre maladie. On va les trouver, éventuellement, ce qu'il faut faire. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un pouvoir médical qui est là pour dire stop et essayer de poser des limites à une certaine éthique, et qu'on ne peut pas accéder à la médecine comme ça sans en passer par un discours médical pour l'instant. Mais sur Internet, tu peux te faire prescrire les médicaments qui t'arrivent à la maison, il n'y a aucun problème. Viagra et compagnie, ça c'est pour les compétences sexuelles, c'est ça ?
On n'est pas loin de devoir conclure. Avant de conclure, moi je voudrais faire deux choses. Donc je voudrais collecter une donnée ici. Donc, je voudrais savoir, je vais vous poser une question, vous avez levé la main pour me dire de quel côté vous êtes. La première partie de la question, ce sera qui est plutôt rassuré par le fait que les données personnelles aillent sur le web, et donc j'imagine que ces gens-là le font, hein, qui mettent autant que faire se peut leurs données sur le web, Facebook, etc. Et puis le complément, donc qui serait plutôt inquiet par le devenir de toutes ces données personnelles. Alors on va commencer par qui est plutôt rassuré.
Merci.
D'accord. Et qui est plutôt inquiet ? C'est assez édifiant comme conclusion. Donc ce sera la conclusion de là. Je veux juste vous inviter à rejoindre Jean-Claude et Alex qui sont en dédicace. Enfin, toi, tu es en interview d'abord et puis en dédicace. Bref, enfin, vous pouvez les retrouver à la librairie un peu plus tard. Et puis vous remercier d'être venus. Et merci à nos intervenants pour...